Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un cours de Talmud. Tenida, page 54, Daf Nun Dalet. Bonne écoute et bon limoud.
Et donc, Sotot Ninou, Toot Ninou, est-ce qu'il s'agit de folles? Il s'agit simplement de femmes qui sont dans le doute. Et là, Tani Toot. Donc il faut rectifier le texte de la Mishnah et parler des femmes qui sont dans le doute. Alors, Détania, nous allons voir ici ce que l'on doit faire dans le cas où on a un problème de Nida et de Ziva. Et comme le disait Rabbi Yoshua, le cas des femmes qui sont picrotes, c'est-à-dire qu'ils savent exactement quand elles ont eu des saignements. Alors la Braïta que nous allons voir est une Braïta dans laquelle on prend des cas évidemment qui sont peut-être un peu des cas d'école, où un certain nombre de saignements alternés vont conduire à une situation qui est déjà relativement difficile à gérer. Là encore, je rappelle ce que nous avions dit au début de d'une Mishnah précédente, ces problèmes de savoir si une femme est Nida ou Ezava ont une grande importance d'après le dîne de la Torah, où on faisait la distinction entre les sangs des règles, des sept premiers jours des saignements, et le sang de Zava éventuel des 11 jours suivants. Mais de nos jours, encore une fois, tout saignement, quel qu'il soit, si infime soit-il, induit une obligation d'attendre 7 jours pour évacuer l'hypothèse de la femme serait Nida, et d'attendre ensuite 7 jours sans saignement pour lui appliquer un dîne de Zava Gdola avec 7 Nekim. Donc cette étude reste une étude théorique, néanmoins, du point de vue, je dirais presque mathématique, extrêmement intéressante, de Tania, on a appris dans une Braïta. Yom echad tamé v'yom echad tahor. Supposons une femme qui saigne un jour et l'autre jour elle ne saigne pas. Alors comment cela va se passer à partir du premier jour où elle a saigné? Elle peut avoir un rapport avec son mari le huitième jour, y compris pendant la nuit suivante. Et si on fait le compte, il y aurait également quatre nuits pendant les 18 jours suivant le début de ce saignement, pendant lesquels elle peut être autorisée. Vimaitaro Amiba Erev. Maintenant, si ce saignement était le soir, et Namesha Meshet et la Shmini Bilvad, à ce moment-là, elle ne peut plus avoir de rapport avec son époux, si ce n'est le huitième jour, aussi bien d'ailleurs le jour que la nuit. Alors, il y a deux éléments pour comprendre ces halakhot. La première chose, c'est qu'une telle femme qui cesse toujours pendant 24 heures d'avoir des saignements ne sera jamais Zava Gdola, puisqu'elle ne voit pas trois jours consécutifs. D'autre part, lorsqu'elle aura un saignement le neuvième jour, c'est un jour pendant lequel les chomérettes, elle doit être chomérette pour donc attendre 24 heures le dixième jour. Et après, la nuit suivante, elle pourra avoir une relation avec son mari. Et puis on suppose ensuite que pendant le onzième jour, elle doit à nouveau, attendre le douzième jour. Et la nuit suivante, le douzième jour, elle peut avoir un rapport avec son mari. Donc voici déjà deux jours. Elle aura un saignement le treizième jour. Elle doit attendre le quatorzième jour pour avoir un rapport avec son mari la nuit. Donc voici le troisième jour. Enfin, elle saigne le quinzième jour. Elle doit attendre aussi le seizième. Et elle peut avoir un rapport avec son mari la nuit suivante. Voilà les quatre jours. Alors, en ce qui concerne le dix-septième jour, elle saigne à nouveau et elle doit attendre le dix-huitième jour. Donc voilà que la période 18 jours s'est écoulée, et elle n'a pu avoir de relation avec son mari que pendant 4 nuits, en dehors de la nuit et du jour du 8e jour. Tout ceci n'était valable que dans la mesure où on a admis que pendant cette première, dans ce premier cas, les saignements avaient lieu pendant la journée, mais nous avons étudié également le deuxième cas, dans le cas où elle saigne dès le début de la nuit. Bien entendu, à ce moment-là, toutes les possibilités qu'elle ait une relation avec son mari à la fin des 48 heures, c'est-à-dire un jour de saignement suivi d'un jour de chomer et yom keneged yom, elle doit attendre, disparaît, puisque avant qu'elle ne puisse avoir un rapport avec son mari, elle saigne à nouveau. Et c'est pourquoi la Braïta nous disait que dans ce cas-là, il ne lui reste que le huitième jour. Alors, ceci était un première série de cas. Maintenant, deux cas. Deux jours. Shnei miyamim temeim, shnei miyamim tehorim. Supposons maintenant que, au lieu de voir un jour oui et un jour non, pendant deux jours, elle a des saignements et pendant deux jours, elle n'a pas de saignements. Et là, quelle va être la conséquence logique? Elle pourra avoir des rapports avec son mari le huitième jour, Shtemasar, et le douzième jour, Veshishasar, et le seizième jour, Vesrim, et le vingtième. La Gemara s'interroge au Tshamesh Nami Betashsar. Pourquoi ne pourrait-elle pas avoir de rapport le 19e jour? Nous verrons, après avoir expliqué ce qui précède le sens de la question et la réponse que propose Rav Shechet d'une part, Rav Ashi d'autre part. Alors, comprenons donc cette situation d'une femme qui a deux jours de saignement suivis de deux jours sans écoulement sanguin. Alors, bien entendu, il est hors de question qu'elle puisse avoir des relations avant la fin des sept jours de Nida, même si elle n'a pas saigné pendant le troisième et le quatrième, ou pendant le sixième et le septième, parce qu'on sait parfaitement qu'une Nida, dès qu'elle a commencé à saigner, elle doit attendre sept jours avant de pouvoir être autorisée à nouveau à son mari. Alors, bien entendu, elle peut avoir des relations le huitième jour, qui fait partie de deux jours pendant lesquels elle n'a pas de saignement, puisque, d'après l'alternance que nous avons imaginée, le septième et le huitième jour sont tous les deux nets de d'écoulement sanguin. Simplement que le septième jour faisant partie des sept jours de Nida, il est strictement interdit d'avoir des relations. Le soir, elle peut aller au mikvé, et donc elle l'a à la disposition, si l'on peut dire, le huitième jour intégralement. Le soir, c'est le soir du neuvième jour, et le soir du dixième jour. Donc, puisqu'elle a vu, elle devra garder le onzième jour. Également, puisqu'on fait 24 heures de Shomer et Yom Kenegad Yom, lorsqu'il y a eu deux jours de saignement, tant qu'il n'y en a pas eu trois. Elle peut aller au mikvé le soir, donc, et avoir des relations le douzième jour, toute la journée. Et puis, elle saigne à nouveau le treizième et le quatorzième. Pour ces deux jours, elle doit à nouveau s'abstenir de toute relation pendant le quinzième jour et vérifier qu'il n'y a pas de saignement. Et elle pourra avoir une relation le soir qui appartient donc au seizième jour. Elle saigne le dix-septième et le dix-huitième. Elle doit attendre le dixième jour. En effet, nous savons que celle qui a vu pendant les un jour pendant les 11 jours n'est toujours interdite de relation maritale pendant le lendemain. Alors là-dessus, la Gemara maintenant la question pourquoi elle n'aurait pas de relation le dixième jour. En effet, dans le dernier pérec de notre Maseret d'Irachi, il a enseigné qu'il y a un jour parmi les 11 jours de Ziva qui n'est pas soumis à la loi de Shomer et Yom Kenegad Yom, c'est-à-dire d'attendre 24 heures le lendemain, c'est le 11e jour, c'est-à-dire en fait le 18e jour, le 18e jour depuis le début du cycle. Et donc pourquoi est-ce qu'on lui demande de s'abstenir de relation avec son mari pendant le 19e jour? À cause du saignement du 18e jour qui est le dernier des 11 jours de Ziva. Et là-dessus, Amar Rav Shechet. Rav Shechet a répondu à cette question. Zot Omeret. Ceci nous enseigne, Gargaran, le din d'une femme qui est littéralement gourmande, si on peut dire. Ditnan, et notre Mishnah, une Mishnah nous dira plus loin, assour que cette attitude de Gargaran, de gourmandise, est interdite. En fait, cette Mishnah nous explique que il y a un risque si elle ne prend pas la précaution de se séparer pendant un jour, le 19e jour, malgré le fait que théoriquement c'est permis, elle n'en vienne une fois à avoir des relations pendant les jours de Ziva, autres que le 11e. Le lendemain d'un jour, elle a eu un saignement, alors que là, cela est strictement interdit d'après la Torah. C'est pourquoi les Chachamim l'ont interdit, c'est ce que nous dit Rashi. Maintenant, voyons encore une autre réponse, celle de Rav Ashi. Rav Ashi Amar, Nehi de Chadassar Lobaïsibour. Rav Ashi dit, il est vrai que le 11e jour n'a pas besoin d'une garde d'un 24 heures qui le suivent, à Siri, Mia, Baeshimur. Mais, il y a quand même le saignement qui a eu lieu le 10e jour, et ce saignement du 10e jour lui fait partie de la période de Ziva sans particularité, et donc puisqu'elle avait saigné l'avant-veille, elle est obligée d'attendre également 24 heures, non pas à cause du saignement du 11e jour qui n'est pas lui porteur d'un statut de Shomer et Yom Kenegad Yom, mais à cause du saignement du 10e jour qui est porteur d'un statut de Shomer et Yom Kenegad Yom. Et comme le lendemain, le 11e jour, elle n'a pas été un jour naquis puisqu'elle a saigné, elle devra garder un jour naquis, le premier qui se présente après ce 10e jour, qui sera effectivement le 12e jour, c'est-à-dire le 19e depuis le début du cycle, ce qui, d'après Rav Ashi, justifie la décision de la Braïta. Entre parenthèses, il y a une discussion entre les commentaires pour savoir si cette exigence de Rav Ashi de respecter une abstinence le jour qui suit le 18e jour, donc le 19e jour, à cause de l'avant-veille, si cela est d'après la Torah, une exigence de la Torah, ou bien si ça n'est que de Rabbanan, puisque la période de Ziva est déjà terminée. Passons donc à un troisième cas. Ce serait mimtemin ou ce serait mimtehorin. Que se passerait-il pour une femme qui a trois jours consécutifs pendant lesquels elle est impure, c'est-à-dire qu'elle saigne, et trois jours pendant lesquels elle est pure, sous-entendu qu'elle n'a pas de saignement. Alors, ce qui va se passer, c'est Meshameshet Shnei Yamim. Elle aura le droit, une première fois, d'avoir deux jours de relation avec son mari, Veshuvena Meshameshet Leolam. Mais ensuite, elle ne pourra plus jamais de son existence avoir de relation. Ceci est relativement simple à comprendre. En effet, il est hors de question qu'elle puisse avoir des relations pendant les sept premiers jours, puisqu'elle est Nida. Ensuite, donc, elle continue à avoir des saignements le huitième et le neuvième jour, ce qui fait partie des jours de Ziva. Compte tenu qu'il n'y a que deux jours consécutifs, elle doit attendre 24 heures. Ces 24 heures commencent le dixième jour, et alors à ce moment-là, il y a trois jours pendant lesquels elle n'a aucun saignement, donc le dixième jour n'est pas permis, mais le onzième et le douzième sont permis. Ensuite, elle a de nouveau trois jours pendant lesquels elle saigne, 13, 14 et 15. Ceci la rend Zavagdola. Pour sortir de cette situation de Zavagdola qu'elle a eue à cause des saignements, des premiers saignements consécutifs, trois jours de la période de 11 jours, le 13, le 14 et le 15, eh bien, il faudrait qu'elle puisse avoir 7 jours sans saignement. Compte tenu de sa périodicité de 3 jours de saignement, suivi de 3 jours sans saignement, elle est totalement et définitivement interdite. Maintenant, nous avons un cas. Dans les autres cas, n'est-ce pas, qui continuent, la Braïta continue, Arba Yamim, Temeim Arba Yamim Teorin. Si ces 4 jours suivent 4 jours, vous ferez vous-même le calcul, il est relativement simple. Il lui restera une fois un jour pendant lequel elle a le droit d'avoir une relation avec son mari. En fait, il s'agira donc du huitième jour. Et ensuite, à cause de 4 jours consécutifs pendant le temps de Ziva, elle ne peut plus jamais se purifier. Chamishaimim Tohorin, 5 jours de saignement et 5 jours sans saignement, Meshameshet Shloshayamim. Il y a ici un paradoxe. Elle va pouvoir avoir une relation avec son mari pendant 3 jours, c'est-à-dire les 3 premiers jours de la période de Ziva, puisqu'elle a saigné pendant les 5 premiers jours, les 2 jours suivants, c'est encore dans la période de Nida, elle est interdite, elle va au mikvé, et puisqu'elle ne saigne ni le 8e, ni le 9e, ni le 10e, elle est autorisée de relation avec son mari pendant le 8e, le 9e et le 10e, et puis ensuite, elle est Zavagdola, puisqu'elle a 5 jours de saignement, et il est impossible de s'en sortir. Cas suivant, Shishayamim Tumin, Shishayamim Tehorin, 6 jours de saignement et 6 jours sans saignement. Mais ça m'échettera Mishayamim. Le calcul est relativement simple, on s'apercevra, toujours après avoir pris la précaution de ne jamais autoriser quoi que ce soit pendant les 7 premiers jours, qu'elle est autorisée de relâcher avec son mari le 8e, du 8e au 12e, 8, 9, 10, 11, 12, sont 5 jours pour lesquels elles sont permis, ensuite elle devient Zavagdola, elle ne s'en sort plus. Enfin, un autre cas par contre, lui va être un peu plus satisfaisant si l'on peut dire. Shivayamim Tovim, Shivayamim Tovrin, si cette femme a une périodicité de 7 jours de saignement suivie de 7 jours pendant lesquels elle n'a pas de problème de saignement, on peut dire, comme ça s'exprime la Braïta, qu'elle pourra avoir des relations avec son mari un quart de son existence pendant des périodes de 28 jours. C'est-à-dire que chaque 28 jours, elle pourra avoir une semaine où elle est autorisée de vie conjugale avec son mari. Prenons donc ce mois, enfin cette période de 28 jours type. La première semaine, elle est Nida, elle boit pendant les 7 jours. À la fin de ces 7 jours, si elle a fait Efsektahara, qu'elle a pu se purifier, elle va au Mikvé. Donc la semaine suivante, du 8e jour au 14e jour, elle a 7 jours consécutifs où elle est autorisée. Ensuite, elle devient Zavagdola, puisqu'elle aura des saignements consécutifs le 15, 16 et 17e jour, qui font partie des 11 jours de Ziva, et elle ne pourra en sortir que lorsque elle aura pu avoir à nouveau 7 jours sans saignement. Ces 7 jours sans saignement vont commencer à partir de la fin des 7 jours de saignement pendant lesquels elle se trouve, c'est-à-dire du 22e au 28e. Donc, normalement, à la fin du 28e, elle pourrait aller au mikvé, puisque 7 jours se sont passés sans saignement, mais c'est ce jour-là, justement, le 29e, que recommence sept jours de saignement. Et donc, il faudra à nouveau qu'elle attende, et ce sera de nouveau uniquement au bout d'un mois, à partir du 36e jour, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, où elle aura à nouveau une semaine où elle peut vivre avec son mari. Enfin, disons que cette dernière situation est relativement satisfaisante, si l'on peut dire. Là, Braïta ne s'est pas arrêtée là. Elle prend maintenant le cas de 8 jours de saignement suivi de 8 jours purs. Et là, la Braïta constate, après le calcul, qu'elle pourra avoir des relations avec son mari pendant 15 jours, tous les 48 jours. Alors, voyons nous-mêmes comment cela est décompté, tel que Rashi l'explique. Les premiers 8 jours sont des jours de Ziva, par exemple. Et puis, à partir de la deuxième série de 8 jours, elle sera obligée d'attendre encore un jour pour se sortir du huitième jour au titre de Shomer et Yom Keneged Yom. Et ensuite, elle aura 7 jours pendant lesquels elle peut être en relation avec son mari. Donc, voici déjà 16 jours qui ont passé. Il y a encore, parmi ces 16 jours, 2 jours devant nous qui sont des jours de Ziva. Donc, la troisième période de 8 jours, 2 d'entre eux, comme on vient de le dire, font partie encore des 11 jours de Ziva. Et les 6 font partie du début de Nida. Et la quatrième série de 8 jours, qui sont des jours dans lesquels elle n'a pas de saignement. D'abord, nous avons les premiers qui sont nécessaires, c'est-à-dire le premier qui est nécessaire pour compléter les 7 jours de Nida, et les 7 restants sont autorisés à la vie conjugale. Et puis, et ensuite, il nous reste encore 4 jours, des jours de Ziva. En ce qui concerne donc la cinquième série de 8 jours, elle est Zava Gdola à cause du saignement des 3 premiers jours, et puis pour les 8 suivants, il y en a 7 qui sont impartis au compte des jours purs pour qu'elle puisse sortir de son statut de Zavagdola. Et enfin, le 8e jour de cette série de 8 jours, elle est autorisée à la vie conjugale. Donc, au total, nous avons bien effectivement 15 jours parmi les 48. Le 49e jour, où elle aura à nouveau des saignements, ceci sera un début de cycle de Nida, et on peut recommencer le calcul tel que nous venons de l'exposer. Là-dessus, la Gemara s'étonne, Arehar Bessar à vous. Mais le compte que nous avons fait, ce n'est qu'un compte de 14 jours et non pas de 15. Amar Ravada Bar Yitzhak. Ravada Bar Yitzhak a répondu, Zot Omeret. Ceci vient nous enseigner la chose suivante. Yemenidata She'en Roa Ba'en. Alors c'était un chidouche important dans la théorie, que les jours qui font partie du compte de Nida, mais pendant lesquels elle n'a pas effectivement de saignement, Olin Isfira Zivata. Ils peuvent être comptés parmi les 7 jours de pureté qui sont nécessaires pour qu'elle puisse sortir de l'état de Zavagdola. La Gemara va montrer que ceci avait fait l'objet d'un questionnement des Chachamim. Des Bayeleu. En effet, les Chachamim se sont posés la question suivante. Nous avons ainsi terminé le premier Hamoud de ce DAF 54. Nous tournons la page.
Vous êtes en plein cours de Gemara avec Torah Box. Et n'oubliez pas, chaque mot d'étude équivaut à accomplir les 613 mitzvot.
Voici la question que nous avions déjà abordée. Lorsqu'une femme a accouché mais qu'elle ne saigne pas après cet accouchement, est-ce que dans le cas où elle était Zava auparavant, elle peut compter ses jours postérieurs à sa naissance où elle a un statut de Nida mais où elle ne saigne pas pour se purifier son statut antérieur à la naissance de Zava? Amar Rav Kahana. Là-dessus, Rav Kahana avait répondu. Tashma vient et apprend d'une braïta. Ra'atash Naïm, une femme qui a saigné pendant 2 jours et elle était en période de grossesse. Velashlishi Pila. Le 3e jour, elle fait une fausse couche. Ve'nayodatma Pila. Elle n'a aucune idée de ce qu'elle a laissé échapper pendant cette fausse couche. S'agissait-il d'un embryon de garçon, d'un embryon de fille, ou peut-être de rien du tout, même sans saignement? Donc on a toutes sortes de doutes, et dit la Braïta, Rezus Fekzivas Fekleda, elle est peut-être une femme Zava, puisqu'il y a peut-être du sang, peut-être elle a accouché soit d'un garçon, soit d'une fille, mais via Corban, elle apporte un Corban, puisqu'il y a 2 hypothèses parmi les diverses hypothèses qui la rendent obligée d'un Corban, si elle est Zavagdola ou bien si elle a accouché. Venonechal, mais à cause du risque qu'il n'y a pas eu de, ni de naissance, ni de zavak de là, on ne peut pas le consommer. Et surtout, dit la Braïta, ce qui nous intéresse, et c'est la preuve de Rav Kahana, vimei le data chez Enroa Baen, les jours qui suivent les, cette naissance, pendant lesquels elle ne saigne pas, olin la l'isfira divata, il compte pour le compte de la ziva éventuelle. Amar à papa, il n'est pas d'accord, il dit chané atam, c'est différent dans le cas de la Braïta, qui vande et qu'elle a même le zahari, en effet, peut-être, on imagine qu'elle a eu un garçon, que la raison pour laquelle on lui oblige encore à se considérer comme impur pendant 7 jours supplémentaires, alors qu'on ne sait pas du tout si elle est une fille, salkelal shiratimata. C'est pour cela qu'il compte pour la diva. Sous-entendu, mais si on était sûr qu'elle avait donné naissance à une fille, on n'aurait peut-être pas compté les jours où elle ne saigne pas en tant que yamim nekiim à cause de l'impureté due à la naissance d'une fille. L'Agmar n'est pas d'accord avec cette objection. Amar le Ravuna bered Rav Yoshua le Rapapa. Ravuna, le fils de Rav Yoshua, rétorqué à Rapapa. Beyolet Zacharika le Sapuke, Beyolet Zekeva le Sapuke. Est-ce que la Braïta dit qu'on doute qu'elle a eu un garçon et qu'on ne doute pas que peut-être elle a une fille? Et la lave, mais n'est-ce pas, on doute également que peut-être elle a une fille? Shmamina Olin. Donc tu déduis quand même de cette Braïta que cette hypothèse ne nous dérange pas et que nous considérons que dans la mesure où elle n'a pas saigné après la naissance, ces jours-là, bien qu'elle ait le statut de Nida, compte pour les Shivanekim de son statut de Zava éventuel. Shmamina, là, Gemara considère que la preuve est bonne. Revenons à nos comptes de femmes ayant des alternances de saignement et d'absence de saignement. Tishayamim Tmeim et Tishayamim Tohorin. Si elle a 9 jours, pardon, de saignement suivi de 9 jours purs, mais Shameshet Shmonayamim Mitor Shmona Asav. Elle est en mesure de pouvoir vivre avec son mari pendant 8 jours, sur tous les 18 jours, en fait c'est à partir du 11e jusqu'au 18e, comme on peut le constater rapidement en se rappelant que le 10e jour devra être Shomeret Yom Keneged Yom par rapport au saignement du 8e et du 9e qui ont un statut de Yemei Ziva. Asara Yamim Teorim, Asara Yamim Teorim, Yemei Shimusha Kimei Zivata. Si elle a 10 jours impurs suivis de 10 jours purs, les jours pendant lesquels elle peut avoir des relations correspondent exactement aux jours de Ziva. Précisément, les 3 derniers des 10 premiers jours la rendent Zavak Dola, et les 7 premiers des 10 jours pendant lesquels elle ne voit pas lui permettent de sortir de l'état de Zavak Dola avec 7 Nekim. Il lui reste permis le 18, le 19e et le 20e jour des 20 premiers jours. Et enfin, dit la Gemara, il en a de même pour 100, il va de même pour 1000. C'est-à-dire que également, comme Rachid explique, si par exemple elle a 100 jours, il est évident que les 93 derniers des 100 premiers sont considérés comme du Dam Ziva, et des 100 suivants, les 7 premiers sont à retirer pour être Nekia, et ensuite elle a 93 jours autorisés. Autrement dit, le 201e jour, on pourra recommencer de la même manière, et quelque chose de semblable également lorsqu'il s'agit de 1000 jours. Nous avons ainsi terminé le Perek Basiman. Et nous...
On commence Bezrat Hashem, le 7e chapitre, celui de Dame Anida. Donc on se trouve au Daf Nundalod Amudbet. Je commence la Mishnah. Dame Anida Upsaramet, Metamin Lachin ou Metamin Yeveshin, le sang de la femme qui a eu un écoulement, ou bien la chair du cadavre humain, ces deux-là rendront impurs, soit dans leur état frais, humide, soit s'ils ont séché. En revanche, aval azov v'ania v'arok v'asheretz v'anevela v'ashikvadzera metamin lachin v'en metamin yveshin. L'écoulement blanchâtre du zav, ou bien seglaire, et sa salive, et le cadavre de la bête rampante, ou bien de n'importe quelle bête, ou bien le sperme de l'homme, ces choses-là rendront impures que à leur état frais, humide, et non pas après avoir séché. V'im yocholin l'ashrot v'lachzor likmot shehen metamin lachin ou metamin yveshin. Mais si après les avoir trempés dans de l'eau un certain temps, ils redeviennent humides, alors ils rendront impurs, soit tant qu'ils sont frais, soit après avoir séché. V'kamay shriatan, combien de temps ils seront trempés pour les considérer comme toujours frais? Beposhrin me et le et. Il faudra les tremper dans de l'eau tiède, d'un jour au lendemain. Rabbi Yossi Omer, d'après Rabbi Yossi, besar amet yavesh ve'enu yachol la'ashrot ve'lachzor likmot shaya ta'or. La chair du cadavre humain qui a séché, et même si on la trempe, elle ne redeviendra pas comme auparavant, elle ne rendra plus impure. On commence la Gemara. Mina hanimile. La Mishnah dit que la dame anida, le sang d'écoulement de l'anida, celui-ci rendra impur. D'où est-ce qu'on apprend cela? Amar Chizkia, nous dit Chizkia, de Amarkra, car dit le verset, Vadava benidata. Telle est la loi de celle qui a un écoulement dans son impureté de l'anida. Donc, il y a dans le verset une comparaison, Madva kemota. Son écoulement est comme elle. Mahi metama, af madva metama. De même que elle-même rendrait impur, son écoulement aussi rend impur. Ashke khanlach, yavesh minalam. On apprend ce verset, tant que l'écoulement est humide. Et d'où est-ce qu'on sait qu'il rendra impur, même après avoir séché? Amar Rabbi Yitzhak Amarkra, nous dit Rabbi Yitzhak, car dit le verset, yiye. Rashi rapporte le verset entièrement, dam yiye zova. Et si c'est un flux de sang qu'elle a, le mot yiye est en trop, pour nous dire, bevayato yiye. Il restera dans les mêmes conditions, durant toute son existence. Donc, même après avoir séché. Demande la Gemara, vema hanimile belach venase yavesh. Yavesh meikaro minalan. Et peut-être que cela est dit uniquement à propos du sang qui s'est échappé d'elle à l'état liquide. Donc même si ensuite il a séché, il restera impur. Mais si il est sorti d'elle déjà dur, déjà sèche, peut-être que celui-ci n'est pas impur. Veut-tu? Et encore une question. Hadotnan, ce qu'on a vu ailleurs dans la Mishnah, hamapelet que min klipa, que min afar, que min sehara, que min yafrushin adumim, tatil le maïm. Celle qui a mis au monde quelque chose qui a l'aspect de peau, ou bien de terre, ou bien de cheveux, ou bien de moustiques rouges, tatil le maïm. Elle va tremper ces choses-là dans de l'eau. Im nimochu tamé. Et si en effet ces choses-là se sont liquifiées, c'est du sang dur et elle est impure. Donc on voit bien dans cette Mishnah que même si elle a laissé échapper du sang dur, celui-ci est impur. Minalan, d'où est-ce qu'on sait cela? Répond la Gemara, yiye ribuyahu. Le mot yiye est en trop pour nous faire savoir que n'importe quel sang dans n'importe quel état est toujours considéré comme impur. Et peut-être alors qu'on va dire, imai osa mishkav umoshav le tamé adam ou le tamé bgadim, af damanami osa mishkav umoshav le tamé adam ou le tamé bgadim. Mishkav, cela veut dire sa couchette, et moshav, sa chaise. L'endroit où l'anida s'est assise ou couchée devient impur à un haut degré. Au degré appelé Av Atuma. En tant que tel, s'il y a eu un contact entre un homme et cette couchette, non seulement l'homme même deviendra impur, mais même ses habits dont il est habillé deviendront avec lui impurs. Alors peut-être qu'on va dire, de même que elle fait sa couchette et sa chaise impures pour rendre impur l'homme et pour rendre impurs les habits, alors peut-être que son sang aussi rendra impur l'endroit sur lequel il se trouvait à ce degré-là, le degré de Av Atuma. Et l'homme qui rentrera en contact avec ce récipient deviendra impur, lui et ses habits. Demande la Gemara à tout dama bar mishkav ou moshav ou. Est-ce qu'on pourra dire que le sang a une couchette ou bien une chaise? Demande la Gemara, est-ce que ceci est une réponse? Ou le ta'amir even menugat bat mishkav ou moshav i de itzterich kralimute? Et est-ce que la pierre lépreuse, on pourra dire qu'elle a une couchette ou une chaise? Comme quoi le verset doit exclure l'impureté de la couchette de cette pierre? Où est-ce qu'on a vu cela? De Tania, comme on a vu dans la Braïta, Yaholte even menugat osa mishkav umoshav le tamé adam le tamé bgadim. Est-ce que peut-être on va dire que la pierre lépreuse va faire sa couchette et sa chaise impure au degré de Ava Atuma, comme quoi cette couchette rendra impur l'homme et ses habits avec lui? Vedin ou on pourra apprendre cela à partir d'un kalvachomer. Ou mazav she'enno metame bebia, osse mishkav ou moshav, le tamé adam, le tamé bgadim. Si déjà l'homme qui est devenu impur par l'impureté du zav, qui ne rendra pas impur par son entrée, cela veut dire que s'il est entré dans une maison, il n'y a pas de tumat ohel, tout ce qui est sous le même toit ne deviendra pas impur. Tout de même, osse mishkav ou moshav, il va rendre impur sa couchette et sa chaise, le tamé adam, le tamé bgadim, à un degré d'impureté, comme quoi cette chaise rendra impur l'homme qui la touche, lui et ses habits. Alors, even menugat shemetama bevia, la pierre lépreuse qui rend impur par sa venue, si elle a été entrée dans une maison, tout ce qui est sous le même toit deviendra impur, et nodin shemetama mishkav umoshav, le tamé adam, le tamé bgadim, n'est-ce pas a fortiori qu'elle rendra impur sa couchette et sa chaise pour rendre impur l'homme et ses habits? Talmud Lomar, c'est pour cela que nous dit le verset, Hazav, à propos de l'impureté de la couchette et de la chaise, C'est écrit dans le verset Asher Yishkav Alav Hazav. Que va se coucher dessus? Le Zav. Dans le sujet, on sait bien qu'il s'agit du Zav. Donc le mot Zav est en trop. Cela vient exclure Hazav, Velo, Even Menugat. C'est uniquement le Zav qui rend impur la couchette et la chaise, et non pas la pierre lépreuse. Donc Tama de Miatekra, Halavachi, Metama. C'est que du fait que le verset l'a exclu, mais sinon on aurait dit qu'elle rendra impure sa couchette et sa chaise, bien qu'elle n'a pas vraiment une couchette et une chaise. Donc pareil à propos du sang, peut-être qu'il rendra impur l'endroit où il se trouve, et on ne pourra pas dire que ceci n'est pas une couchette ou une chaise. Répond la Gemara, ok, Umina, sers-toi du même commentaire. Lav mi amart hazav velo even menugat, achina mi amarkra asher yoshevet alav, hi velo dama. De même que là-bas tu as commenté le mot hazav pour nous dire le zav et non pas la pierre lépreuse, là aussi on va commenter le verset, asher yoshevet alav, comme quoi elle, l'anida, est assise dessus, elle-même, et non pas son sang.
Nous espérons que ce cours a été apprécié. Retrouvez sur le site torah-box.com gratuitement un cours sur chaque page du Talmud, ainsi que le Daf Hayomi, quotidiennement en vidéo.